écoutez Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est minuit, ici à Paris, 22h en temps universel.
24h en France sur RFI.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 24h en France Weekend, votre journal de 10 minutes où l'on décortique toute l'actualité française et rien que l'actualité française à tête reposée.
Stéphane Genest.
Et à la une des manifestations partout en France ce samedi pour défendre le droit à l'avortement, mais aussi pour soutenir les femmes qui ne peuvent pas bénéficier d'une interruption volontaire de grossesse dans le monde. Le nouveau ministre de la Justice, Didier Migaud, favorable à l'inscription de la notion de consentement dans la définition juridique du viol. Un combat mené depuis des années par de nombreuses associations. Au sommaire également, le Haut Conseil pour le climat qui critique les coupes budgétaires du gouvernement sur l'environnement. Et puis le football avec la 6e journée de Ligue 1. Et ce samedi soir, Monaco l'a emporté sur le fil face à Montpellier de Buzyn. Nous sommes le samedi 28 septembre, journée mondiale du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Et ce chiffre qu'il est nécessaire de rappeler, d'où l'utilité de cette journée, 40% des femmes, 4 femmes sur 10 à travers le monde vivent dans un pays qui restreint ou qui interdit le droit à l'avortement. L'IVG, qui est interdit dans une vingtaine de pays, notamment en Amérique latine et en Afrique, très limité dans certains, autorisé dans d'autres, comme en France, mais dans l'Hexagone, des obstacles peuvent aussi subsister. Des centaines de personnes se sont rassemblées dans les rues de plusieurs villes du pays pour défendre précisément ce droit. Valérie Cohen était dans le cortège parisien.
Solidarité avec les femmes du monde entier.
Sur la bannière à l'avant du cortège est écrit « Avorter est un droit fondamental ». Un droit qui n'existe pas partout et quand il existe peut-être fragile, tient à rappeler Suzy Rothman du Collectif National pour le Droit des Femmes.
On voit des régressions, que ce soit en Hongrie où Viktor Orban a imposé que les femmes avant d'avorter écoutent le cœur du fœtus. Que ce soit en Argentine, où le président Milei veut revenir sur l'acquis fondamental qu'ont eu les femmes en se battant pour le droit à l'avortement.
Souad, par sa présence, veut-elle aussi réaffirmer l'importance du droit à l'avortement.
L'IVG, droit fondamental des femmes, c'est la libre disposition de leur corps et c'est elles qui doivent encore et toujours savoir décider si elles ont envie d'un enfant ou pas.
En France, où l'avortement est autorisé depuis près de 50 ans et où la liberté d'y recourir a été inscrite récemment dans la Constitution, la bataille n'est pas finie pour autant, estime la docteure Emmanuelle Lhomme. Elle pratique des IVG dans un hôpital parisien.
Il y a des femmes qui changent de département pour avoir accès à l'avortement dans des bonnes conditions. Il ne suffit pas d'avoir des droits, il faut aussi des moyens. Et les moyens dans les services publics, c'est quelque chose qui manque actuellement.
Les associations demandent aux autorités, notamment, un accès effectif à l'IVG sur tout le territoire.
Il dit être favorable à l'intégration de la notion de consentement dans la définition du viol en droit français. Le nouveau ministre de la Justice, Didier Migaud, l'a affirmé en plein procès des viols de Mazan. Procès où Dominique Pellicot et 50 co-accusés sont jugés pour avoir violé Gisèle Pellicot, droguée par son ex-mari pendant 10 ans. Ce combat de l'inscription du consentement dans la loi que mènent depuis plusieurs années les associations, il la juge la loi actuelle trop restrictive. L'avocate pénaliste Anne Bouillon, spécialiste du droit des femmes, pense qu'il faut effectivement faire évoluer la loi, mais elle explique que la question est complexe.
Comprenez que si on fait du consentement la seule variable d'ajustement du sexe légal ou du sexe illégal, alors ça fait peser l'entièreté de la responsabilité de l'infraction sur la victime. Autrement dit, il suffirait que l'auteur fasse la démonstration que la victime a donné un consentement pour qu'il soit exonéré. Mais on sait bien que ça ne se passe pas comme ça. Imaginons par exemple que je consente à ce que quelqu'un me coupe le bras, je pourrais formuler un consentement tout à fait express et pour autant, ça resterait un acte illégal. Ce que je veux dire, c'est que ce sont les actes de l'auteur qui l'engagent sur le plan pénal. C'est parce que l'auteur des faits aura mobilisé des moyens coercitifs que sont la contrainte, la violence, la menace et les surprises et qu'il aura eu la conscience d'outrepasser le consentement de la victime, qu'il engage sa responsabilité pénale. Donc, vous comprenez, si on dit simplement tout acte sexuel non consenti est un viol, alors on fait l'économie de l'étude de l'attitude de l'auteur. Et ça, évidemment, c'est pas possible.
Des propos recueillis par Laurence Théo. Un mot de cette prise d'otage et de cette tentative de mutinerie dans une prison de Mayotte. Ce samedi, le GIGN, les forces de la gendarmerie nationale, sont intervenues au centre de détention de Magicavo après que des détenus ont arraché les clés à un gradé et ont mis le feu à des matelas. Les surveillants pris en otage ont été libérés. L'un d'eux a été légèrement blessé. Actualité politique également en France puisque le Haut Conseil pour le climat met la pression sur le gouvernement. L'organisme indépendant, on le précise, publie la version grand public de son rapport et y ajoute quelques commentaires alors que des coupes budgétaires se dessinent dans les programmes de lutte contre le changement climatique. Une autre information également, qui est surtout une confirmation, la France n'a pas respecté les objectifs qu'elle s'était donnés pour la période 2019-2023, Simon Rosé.
Cette semaine, Agnès Pannier-Runacher se félicitait. La nouvelle ministre en charge de la transition écologique présentait les bons résultats français en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre pour le premier semestre 2024. Ce rapport du Haut Conseil pour le climat intervient donc comme une mise en garde. Le message est en effet clair. L'objectif de rendre la France neutre en carbone en 2050 ne sera pas tenu si le pays reste sur cette voie. Si les émissions de gaz à effet de serre certes diminuent, les puits carbone sont en très mauvais état. Forêts et zones humides ont en effet un rôle essentiel pour capter une partie des émissions du pays, rôle qu'elles assurent de moins en moins bien. C'est notamment la raison pour laquelle la France est hors des clous pour la période 2019-2023. Le Haut Conseil s'inquiète également d'un possible recul de l'ambition. Des textes législatifs pourtant obligatoires, tels que la stratégie nationale bas carbone, n'ont toujours pas été examinés. Ils ont des mois de retard. Les financements sont également anticipés à la baisse. Il faudrait pourtant mobiliser entre 60 et 70 milliards d'euros tous les ans jusqu'en 2030 pour respecter les engagements pris.
Et ce sujet, quel environnement ? Nul doute que Michel Barnier devrait en parler ce mardi à l'Assemblée nationale pour son discours de politique générale. Le Premier ministre réaffirme aujourd'hui, samedi, qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts pour ceux qui travaillent. Discours qui sera en tout cas écouté attentivement par l'ensemble de la classe politique et notamment par les centristes du Modem. Ils sont réunis jusqu'à dimanche pour leurs universités de rentrée en Bretagne. Victorien Villaume suit cet événement pour RFI Reportage.
Au Modem, on a globalement peu goûté les débuts du gouvernement Barnier, mais maintenant...
On attend le discours de politique générale mardi.
J'attends avec impatience son discours de politique générale.
Bruno Millienne, porte-parole du mouvement démocrate.
On connaît les forces des électeurs en présence. Il y a à peu près 11 millions pour le Rassemblement national, 7-8 millions pour la gauche et un peu plus de 6 millions pour le bloc central. Il faut que le Premier ministre apporte des réponses à tous ces gens-là.
Si la trentaine de députés du groupe soutient officiellement le nouveau gouvernement, ils sont autorise toutefois à ne pas voter certains textes à l'Assemblée, à l'image d'Erwan Balanant.
Le message de notre président de groupe, le message de Marc Fesneau, il est clair. S'il y a des textes sur l'immigration qui reviennent sur l'AME, l'aide médicale d'État, on ne va pas voter ça, évidemment.
A contrario, le Modem attend de Michel Barnier qu'il s'engage concrètement sur certaines mesures, affirme la députée européenne Marie-Pierre Védrenne.
Dans notre famille politique, par exemple, la question de la proportionnelle est un élément fondamental pour que toute la voix des Français comptent au moment de l'élection et surtout après dans l'exercice du mandat.
Mais pas sûr que le Premier ministre évoque la proportionnelle dans son discours. Le sujet fait polémique au sein de la coalition gouvernementale. Le parti Horizon et les LR sont contre. À Guidel, Victorien Villaume pour RFI.
Et puis le football avec la suite de la 6e journée de Ligue 1 et Monaco qui fêtait les 100 ans de son club ce samedi soir. Le Monaco qui l'a emporté face à Montpellier 2-1 sur le fil à la toute dernière minute grâce au but de Lamine Camara. Il a permis au Monégasque d'arracher la victoire et il s'en réjouit.
Ah ouais, je suis content, mais on va dire que toute l'équipe était meilleure. On a fait un bon match et aussi on a trouvé une bonne équipe en face de nous. Voilà, on savait que remporter ce match, c'est important pour nous, pour la suite du championnat. Et voilà, aujourd'hui, on l'a fait, on l'a remporté. Et je suis content d'avoir marqué et d'avoir aidé l'équipe. Forcément, c'est spécial pour moi d'avoir marqué ce but victorieux devant toutes ces monnaies, comme vous l'avez dit, devant ces légendes. Et voilà, je suis content, je suis fier. Maintenant, on va se concentrer sur les autres matchs et espérons qu'on va gagner.
Le milieu de terrain monégasque Lamine Camara avec nos confrères de DAZN. Et un peu plus tôt dans l'après-midi, Lens et Nice se sont quittés sur un match nul 0-0. Lille s'est imposé au Havre 3-0. Et puis c'est du sport, mais il est un peu plus différent, celui-ci, le championnat du monde de la frite. Deuxième édition de la compétition, qui se déroulait à Arras et dans le nord du pays, avec un public d'environ 50 000 personnes. Une trentaine de chefs cuisiniers spécialisés sur le sujet étaient en lice. C'est un Français qui a emporté le prix de la frite authentique. Le prix de la frite du monde a quant à lui été attribué à un Néerlandais. Et c'est avec la frite que se referme cette édition de 24 heures en France, minuit 10, ici à Paris, à la réalisation Anaëlle Lenoé. Merci à elle. Bonne soirée, bonne nuit à l'écoute de RFI.